Durant l'année scolaire 2024-2025, 25 élèves de première et de terminale du lycée international Charles de Gaulle de Dijon se sont investis dans un projet pédagogique intitulé « Des archives pour le travail de connaissances et des élèves passeurs de mémoire ».
Encadré par Frédéric Margarito, professeur de lettres, et par Dimitri Wouzel, professeur d'histoire, les élèves ont été dans un premier temps amenés à réaliser un travail de recherche dans les archives privées, locales et nationales, afin de reconstituer les parcours de Juifs dijonnais et de rédiger des feuilles de témoignages pour Yad Vashem.
Ils ont participé à un voyage d'études qui les a menés du musée Pauline aux traces du ghetto de Varsovie, du musée des archives Ringelblum au centre de mise à mort de Treblinka.
Nous vous laissons découvrir les podcasts réalisés par nos élèves qui retracent la vie des familles sur lesquelles ils ont travaillé, Céline Charlot, les familles Rudnik et Kahn, relatent les deux rafles de 1942 au Côte d'Or et nous immergent dans deux lieux d'histoire et de mémoire essentiels, le musée Pauline à Varsovie et Yad Vashem à Jérusalem.
La tragique rafle de juillet 1942 à Dijon.
En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont été pris pour cible par le régime nazi du Troisième Reich. Après la défaite française de mai-juin 1940, le régime de Vichy a été mis en place. Il a marqué le commencement d'une ère de collaboration franco-nazie. À partir de cette date, les Juifs vivant en France ont également été persécutés par le gouvernement de Pétain et de nombreuses rafles se sont déroulées sur son territoire.
L'une d'entre elles se déroule en juillet 1942 à Dijon, non exclue de l'oppression nazie. Elle commence le 12 juillet et finit le lendemain à 20h. Elle prend pour cible 28 juifs. Elle en arrête seulement 21, dont 10 hommes et 11 femmes. Il est important de noter que la Gestapo, police politique du Troisième Reich, n'y participe pas.
Ces rafles cruelles comportent en 1942 certaines règles bien précises. Toute personne arrêtée doit avoir entre 16 et 45 ans et être d'origine étrangère, Pologne, Allemagne, Russie et Luxembourg. Les personnes estropiées ou provenant d'un mariage mixte ne sont pas emmenées. Ces juifs sont retrouvés à cause des dénonciations de leurs voisins ou des commerces qui doivent fournir un document officiel précisant le nombre de juifs travaillant chez eux. C'est comme cela que 7 juifs sont arrêtés à Crépay, un chantier non loin de Dijon.
Ces arrestations se déroulent selon un protocole. Les forces de l'ordre arrivent au domicile des juifs le 12 ou le 13 juillet, toquent à leur porte et ordonnent à ces personnes de les suivre. Elles ne peuvent emmener qu'un seul bagage et un ravitaillement pour 3 jours. Dans leur valise, elles emportent seulement une paire de chaussures robustes, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, un costume de travail, 2 couvertures de laine, du matériel de couchage, une gamelle, un gobelet, une cuillère et un pullover, ainsi que les objets de toilette les plus indispensables.
Les juifs étrangers ont interdiction de prendre avec eux leur carte de ravitaillement, leur cheptel et leurs bijoux. Leur argent est retiré, puis ils sont emmenés au commissariat et sont fouillés minutieusement. Après leur arrestation et leur interrogatoire, les Juifs sont emmenés en train et arrivent dernier délai le 15 juillet à 20h au camp d'internement de Pithiviers. Un camp d'internement peut désigner des centres de rétention administratifs ou de prisonniers de guerre. Ils ont été créés en France pendant la période s'étalant de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Algérie. Le compte-rendu des arrestations et du transfert des Juifs de Côte d'Or doit être envoyé au préfet régional avant le 16 juillet 1942.
Certaines personnes courageuses ont réussi à s'échapper avant ou pendant leur arrestation, comme par exemple M. Kulk, un chimiste vivant à Dijon, 17 rue Berly. Face aux gendarmes qui se tiennent à sa porte, il les bouscule et leur envoie un chien dessus, ce qui lui permet de s'enfuir. Il arrive alors dans une cour, entre dans un appartement sans toquer et continue sa fuite sur les toits. En gagnant une deuxième cour, les policiers le perdent de vue. En dépit de l'arrivée de renforts et de nombreuses recherches effectuées, M. Kulk n'est jamais retrouvé. Cependant, de nombreuses arrestations sont effectuées. L'arrestation de la mère et de la fille de la famille Steinitz en sont 2 exemples.
Madame Steinitz est arrêtée dans les premières heures de la matinée, le 12 juillet 1942, par la police française. Elle se rend sans résistance. La nuit, avant l'arrestation, la fille, Mireille, a couché chez la voisine, Mademoiselle Juliette Marquet, 35 ans, car elle ne s'entend pas très bien avec sa mère. Le lendemain, elle va se cacher dans le poulailler du clos que les Steinitz possèdent un peu plus loin. Les policiers ne la trouvent pas à ce moment, mais en allant se réfugier chez une amie, elle est arrêtée.
Madame Steinitz avait aussi 2 fils, dont Bernard, qui, trop jeune, n'inquiète pas les forces de l'ordre. Il est envoyé dans un orphelinat à Neuilly-sur-Seine. Le père, Paul Steinitz, futur membre des forces françaises de l'intérieur, et le fils aîné Joseph se trouvent en zone non occupée lors de la rafle, et de ce fait, ils ne sont pas arrêtés. Afin de récupérer Bernard, le père doit payer 150 000 francs. Cela correspond à une somme considérable à cette époque.
Ces rafles privent des familles d'un membre important, comme la fille de Madame Khan, qui se retrouve du jour au lendemain sans mère. Tellement inquiète de la situation de sa mère, elle envoie une lettre désespérée au maréchal, demandant sa libération. Malheureusement, il y a une forte probabilité qu'au moment de l'envoi de la lettre, sa mère était déjà décédée.
Les victimes de cette rafle n'ont pas pu recevoir la mention « mort pour la France » en raison de leur origine étrangère. Grâce à notre projet mémoire sur la Shoah, nous comptons honorer leur mémoire et rappeler ces terribles événements passés à ceux qui les oublient ou qui les ignorent.
Durant l'année scolaire 2024-2025, 25 élèves de première et de terminale du lycée international Charles de Gaulle de Dijon se sont investis dans un projet pédagogique intitulé « Des archives pour le travail de connaissances et des élèves passeurs de mémoire ».
Encadré par Frédéric Margarito, professeur de lettres, et par Dimitri Wouzel, professeur d'histoire, les élèves ont été dans un premier temps amenés à réaliser un travail de recherche dans les archives privées, locales et nationales, afin de reconstituer les parcours de Juifs dijonnais et de rédiger des feuilles de témoignages pour Yad Vashem.
Ils ont participé à un voyage d'études qui les a menés du musée Pauline aux traces du ghetto de Varsovie, du musée des archives Ringelblum au centre de mise à mort de Treblinka.
Nous vous laissons découvrir les podcasts réalisés par nos élèves qui retracent la vie des familles sur lesquelles ils ont travaillé, Céline Charlot, les familles Rounik et Khan, relatent les deux rafles de 1942 en Côte d'Or et nous immergent dans deux lieux d'histoire et de mémoire essentiels, le musée Pauline à Varsovie et Yad Vashem à Jérusalem.